Alors, si je vous dis bouquet de tulipes, art contemporain et polémique, est-ce que ça évoque quelque chose?
Polyculture.
Voilà,
Oui.
Kuntz.
Oui.
Donc, alors, dans cette affaire, il y avait plein de choses qui étaient en jeu, mais il y avait quand même, en arrière-plan, je trouve, toujours cette question, Kuntz, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art? Ouais. Il n'y avait pas que ça, mais en fait, il y avait ça. Alors, ce livre de Jean-Marie Schaeffer, L'expérience esthétique, ne parle pas du tout de ça. C'est-à-dire qu'il parle d'expérience esthétique sans parler d'art. Et je trouve que c'est une grande liberté, en fait, qu'on peut retrouver grâce à ça. Et c'est un de ses intérêts, quoi. Alors, l'auteur, Jean-Marie Schaeffer, il est né en 1952. Il a fait des études de philosophie, chercheur au CNRS, directeur d'études à l'EHESS. Il a fait de l'enseignement. Et donc, sa réflexion par rapport à l'esthétique et à l'art, en fait, peut se classer en deux approches. Il y a une réflexion générale, philosophique, sur l'esthétique et sur les arts, dont fait partie ce livre-là. Et puis, parallèlement à ça, il a aussi des objets spécifiques d'études. Notamment, il s'est intéressé à l'image photographique, à la fiction, au récit, aux jeux vidéo. Alors, il a une source d'inspiration, je pense, qui est assez importante, c'est Gérard Genette, qui a été son directeur de thèse. Et il fait beaucoup de références aux sciences cognitives, à la psychologie et à la biologie. Ce qui rend des fois certains passages un peu ardus et un peu plus difficiles à lire. Alors, il est l'auteur d'une douzaine de livres et si vous regardez sur Internet, vous trouverez un certain nombre de conférences, ouais, où il parle. Alors, du coup, il y a des conférences aussi de Gérard Genette sur l'esthétique. Je ne savais pas qu'il avait aussi, ça avait été un de ses thèmes de travail. Donc, l'expérience esthétique, je montre à la télé. Voilà. Alors, la thèse centrale du livre en quatre points. Alors, premier point. Donc, on peut traiter la question qu'est-ce qu'une expérience esthétique sans aborder la question qu'est-ce que l'art? Ça, c'est pas forcément évident. Deuxièmement, l'expérience esthétique ne s'éprouve pas que face à des œuvres d'art. Bon, l'exemple typique, c'est le soir, un beau coucher de soleil, je regarde et j'ai certaines émotions que je peux qualifier d'expérience esthétique. Le troisième point central, c'est que l'expérience esthétique n'est qu'une forme particulière de l'expérience courante. Donc, dans ce qui va être en jeu, en fait, dans l'expérience esthétique, ça n'est pas foncièrement différent de ce qui est en jeu dans le reste de notre vie et de notre expérience. Donc, pour lui, l'expérience esthétique, c'est pas quelque chose d'à part, en dehors du temps, qui se passe et en dehors de la vie, quoi. Donc c'est, pour paraphraser Spinoza, ça n'est pas un empire dans un empire, l'expérience esthétique. Et le quatrième point central, c'est que l'expérience esthétique va consister en fait en une certaine attitude par rapport à un objet. C'est un certain comportement, une certaine attitude par rapport à un objet. Et on peut avoir cette attitude vis-à-vis de n'importe quel objet. Par exemple, je regarde un panneau de sens interdit. La plupart du temps, quand je conduis, tout ce que je vois, c'est que je n'ai pas le droit de prendre cette voie-là, quoi. C'est ça que je vois. Mais si je le regarde en fait de manière esthétique, ben, je vois une couleur rouge, je vois du blanc, je vois un rond, etc. Alors attention, il ne dit pas que l'objet est pour rien. Il ne dit pas que tout objet peut donner lieu à une expérience esthétique gratifiante. Mais il dit que c'est une attitude en fait que l'on a vis-à-vis des objets. Voilà, et donc comprendre l'expérience esthétique indépendamment de son objet, en fait, pour lui, ça va être la manière, non seulement c'est possible, mais ça va être la manière adéquate de le faire. Alors cette expérience esthétique, en fait, il la traite d'un point de vue qu'on peut dire point de vue phénoménologique et à travers trois dimensions, l'attention, l'émotion et le plaisir. Donc il y a ces trois dimensions qui sont présentes dans l'expérience esthétique. Donc l'attention que je vais accorder en fait à ce que je regarde, l'émotion, voilà les affects que je vais ressentir, et puis le plaisir, la manière dont on va se sentir en fait dans cette expérience. Donc voilà, ces trois volets pour l'expérience esthétique. Alors s'il y a des qu'anciens parmi vous, peut-être, qui vont me dire, et le jugement de goût dans tout ça, où est-ce qu'il apparaît, où est-ce qu'il le place? Alors pour lui, le jugement de goût, c'est plutôt après, en fait. C'est conclusif, quoi. C'est après l'expérience esthétique, donc c'est un peu en dehors, et c'est là où on va dire, voilà, en gros, bon, on va, par exemple, donner un jugement artistique en disant c'est de l'art ou c'est pas de l'art. Donc ces trois dimensions, attention, émotion et plaisir, voilà, c'est ça en fait qu'il traite en profondeur là-dedans, donc avec beaucoup de références, j'ai dit, aux sciences, neurosciences, sciences cognitives, biologie, physiologie, psychologie, etc., etc. Donc l'attention. Alors l'attention est primordiale dans l'expérience esthétique. On ne travaille pas à l'économie, on n'est pas orienté vers un but, mais c'est quelque chose de coûteux parce que ça nécessite un investissement fort. Ouais. Donc on est... C'est quelque chose qui s'effectue dans le temps, donc c'est un processus. Il emploie aussi le terme de promenade. Donc c'est pas quelque chose en fait d'immédiat que l'on a qui se passe lorsqu'on est en présence de l'objet, mais c'est vraiment un processus qui se déroule dans le temps. Alors cette expérience, elle est ouverte, cette expérience esthétique. Vis-à-vis de son volet attention, c'est une attention ouverte. Elle va accueillir avec bienveillance tout ce qui se présente, en fait, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on scrute. Donc on ne va pas tenter de classer, de conclure, de juger trop rapidement, mais on a une attention ouverte à tout ce que l'on voit ou tout ce que l'on entend, tout ce que l'on touche ou on déguste si on met le goût dedans. Particularité, cette attention a une granularité très fine. Lorsque on regarde par exemple une photo ou une image qui représente une maison, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit une masse, donc on identifie une maison, on identifie un jardin, éventuellement dans la maison, on identifie des fenêtres, on identifie une porte, et on va pas un toit et on va pas tellement plus loin, quoi, à l'ordinaire, dans l'attention ordinaire. Là, dans l'attention artistique, on va aller
Esthétique.
esthétique, pardon, oui, oulala, esthétique, tout à fait. On va beaucoup plus dans les détails et on voit en fait des lignes, des formes, des couleurs. Alors il explique ça aussi au niveau des neurones. En fait, il y a une explication dans les neurosciences aussi de comment ça se passe, cet accès en fait à des niveaux d'attention très très bas, très très basiques et très très singuliers. Alors cette attention aussi, elle fonctionne comme une polyphonie. Il y a plusieurs niveaux d'intégration et de synthèse. Si on prend l'exemple de la poésie, par exemple, on peut, comme unité, on peut voir la lettre, le son, le sens, le mot, la phrase, le caractère, et aussi des références extérieures, donc d'où, je pense, aussi son influence de Genette, qui a beaucoup travaillé sur l'intertextualité. Et donc tout ça, c'est comme une polyphonie en fait dans notre attention. Et on est à la fois en fait de temps en temps focalisé et distribué. À certains moments, toc, on se focalise sur quelque chose. Donc qui peut être une partie d'un tableau, qui peut être un passage dans une musique ou dans un poème. Et à d'autres moments, on a plutôt une attention où on a un ensemble de points, quoi. De manière générale, donc on voit que par rapport à l'attention traditionnelle, il y a une espèce de surinvestissement en fait de l'attention dans l'expérience esthétique. Et le dernier point, c'est qu'elle est, alors qui est très important aussi, qu'elle est inclusive et non pas sélective, c'est-à-dire que dans l'expérience esthétique, en fait, plus on voit, plus on entend et plus on connaît de choses, plus l'expérience esthétique peut être riche. Donc, connaître des choses sur la vie de l'auteur, sur ce qu'il a voulu faire, sur dans quel mouvement ça se présente, si c'est une œuvre d'art, tout ça, ça ne peut pour lui qu'enrichir en fait l'expérience esthétique. Donc aussi, il met un peu court au débat de savoir est-ce qu'il faut ne rien savoir ou est-ce qu'il faut savoir quelque chose, qu'est-ce qui est le mieux pour après, pour avoir une expérience esthétique. Pour lui, en fait, plus on sait de choses, plus potentiellement l'expérience peut être riche. Alors ça ne veut pas dire qu'elle le sera forcément, mais il y a quand même un a priori plutôt positif. Donc voilà pour l'attention, première dimension. Deuxième dimension, les émotions. Alors pour lui, bon, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur les émotions, simplement dire que pour lui, en fait, les émotions dans la vie qu'on pourrait appeler vie courante, quoi, sont pas foncièrement différentes des émotions vis-à-vis des fictions. Puis pour lui, la fiction, ça fait partie aussi de la réalité comme le reste de ce que l'on vit, quoi. Donc toutes les théories psychologiques, physiologiques, neurosciences sur les émotions, puis, en fait, ça va être valide aussi dans le domaine de l'expérience esthétique. Alors le troisième point, c'est le plaisir. Donc c'est une composante, bien sûr, importante de l'expérience esthétique. C'est sûrement ça qui nous pousse à rechercher des expériences esthétiques. Alors, un des facteurs en fait qui est assez intéressant, c'est la fluidité. Donc, il crée une notion là-dessus qu'il appelle la fluence. Et c'est en fait la fluidité avec laquelle l'expérience esthétique se déroule. C'est-à-dire qu'il oppose ça à ce qui serait la fixité, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est une expérience qu'on peut, enfin, ça peut parler à tout le monde. Par exemple, il y a des tableaux ou il y a des musiques, en fait, pour lesquelles, pour nous, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est des choses figées, rien ne se passe. Alors que pour certains, eh ben, au contraire, ça va fonctionner. En fait, il va y avoir plein de choses et on va avoir l'impression qu'on peut circuler en fait à l'intérieur du tableau, à l'intérieur de la musique, à l'intérieur du poème, de manière quasi permanente et qu'on n'aura jamais épuisé et que tout fonctionne, quoi. Donc, je trouvais ça assez intéressant cette notion de fluence, et c'est ce qui fait en fait qu'on peut, quand l'expérience esthétique est riche, et bien on peut tenir des heures devant le même tableau, on peut réécouter une musique des dizaines de fois, on peut relire un poème des centaines de fois. À chaque fois, ben, il y a quelque chose qui se passe et ça circule, quoi. Il y a cette fluidité, cette fluence. Alors, le deuxième point aussi je pense qui est assez original aussi, qui met en avant, c'est l'existence de ce qu'il appelle un calculateur hédonique. Alors le calculateur hédonique, c'est quelque chose qui accompagne en fait le processus de l'expérience esthétique et qui à chaque fois, en fait, nous donne une impulsion, un sentiment de plaisir ou de déplaisir, et qui, en retour, en fait, a un effet sur ce que l'on regarde et sur quoi on est attentif. Donc, il dit que, alors, ce calculateur hédonique, c'est pas le jugement de goût. Parce que le jugement de goût, en fait, c'est à la fin et il porte sur l'objet. On dit l'objet, voilà, c'est de l'art ou ce n'est pas de l'art. Là, ce calculateur hédonique, en fait, il dit que c'est comme une base continue qui nous accompagne pendant tout le temps de notre expérience esthétique. Et c'est ce plaisir, ce déplaisir, en fait, qui va faire en sorte, qui va nous accompagner dans notre déplacement, en fait. À l'intérieur de ce que l'on regarde ou de ce que l'on écoute, quoi. Alors, par rapport au jugement esthétique de goût, alors pour lui, le jugement esthétique de goût, il est sommatif, conclusif, alors que ce calculateur hédonique, donc, est partie intégrante du processus. L'appréciation esthétique, pendant le temps de l'expérience esthétique, elle n'évalue pas directement l'objet de l'attention, mais son caractère hédonique, le caractère hédonique de l'activité elle-même. C'est-à-dire, je suis en train de regarder ou d'écouter quelque chose, et c'est cette activité-là, en fait, qui est évaluée, c'est pas l'objet en lui-même. Et d'ailleurs, après, il peut y avoir des antagonismes de l'un par rapport à l'autre, quoi. Il pourrait y avoir un objet qui dit que c'est, par exemple, le paradoxe du tragique, où on peut ressentir de la haine, de la cruauté, de la peur par rapport à l'objet que l'on regarde, mais en même temps du plaisir, quoi. Voilà. Et
Excusez-moi.
alors, des fois, cet antagonisme-là est en rupture, c'est-à-dire on refuse. Alors, dans l'art contemporain, par exemple, il y a des exemples célèbres. Donc, j'ai listé par exemple Damien Hirst avec ses vaches qui sont coupées en deux, le Belge Wim Delvoye qui fait tatouer des cochons vivants, des choses comme ça. Même avant les jeunes filles de Balthus ou encore avant l'Olympia de Manet, il y a des gens pour qui, en fait, l'expérience esthétique n'est pas possible devant de tels objets. Donc là, il y a une opposition entre les deux et ça peut pas fonctionner, quoi. Alors, en guise de conclusion, l'intérêt que je vois à ce livre est multiple et pluriel. D'abord, il nous fait sortir de cette impasse qui serait l'art, c'est ce qui provoque une expérience esthétique, et ce qui provoque une expérience esthétique est de l'art. Voilà, donc ça, et on sort de ça, et donc pour moi, c'est libératoire. C'est très bien parce que ça peut conduire à des discussions sans fin. Alors, ça ne veut pas dire que le problème de l'art, de qu'est-ce qu'est l'art, ne l'intéresse pas. Hein. C'est un problème qu'il va traiter aussi autre part. Mais, enfin, moi, mon sentiment personnel et mon intérêt que je trouve dans ce livre, c'est que j'ai toujours pensé, moi, par rapport à mes fréquentations des œuvres d'art, que la question de qu'est-ce que l'art, en fait, elle est plutôt secondaire par rapport à qu'est-ce que ça m'apporte de cette confrontation avec des objets esthétiques. Voilà, alors j'avais une petite citation quand même pour avoir une petite sensation d'expérience esthétique. Pour terminer, je vais finir par une citation de Mallarmé, de Chris de Vere, donc qui parle de la, il dit la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots Par le heurt de leur inégalité mobilisée, ils s'allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feu sur des pierreries. Alors, c'est un très bon exemple. Voilà, c'est un très bon exemple parce que, en fait, c'est. Bon, alors, je le répète une fois, la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots par le heurt de leur inégalité mobilisée. Ils s'allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feu sur des pierreries. Alors, je cite ça parce que pour moi, ça décrit bien en fait ce dont il parle ici quand il parle de l'affluence, du fait que ça circule, de la polyphonie, quand Mallarmé parle des reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feu sur des pierreries. Voilà, donc c'est une citation de Crise de Verre. Donc...